Radio Grand Ciel présente Un jardin perché, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Dans la série Un jardin perché, notre seconde émission à propos de l'arboretum de Rémalard avec Alain Vernol qui nous avait conté la création de ce lieu absolument merveilleux. Nous le retrouvons aujourd'hui et il va nous conter l'historique de ce qui a pu être fait à Rémalard dans cet arboretum qu'on appelle l'arboretum de Bois-Corde. C'est bien cela, Alain Vernol.
Tout à fait.
Alors, bonjour d'abord.
Bonjour, Christiane Blain.
Vous avez déjà passionné nos auditeurs avec cette première émission. Et moi, je voudrais vous dire que je suis allée au Canada avec un très beau programme et notamment voir ces arbres de toutes les couleurs. C'était au mois d'octobre. Eh bien, je dois dire que j'ai vu ces arbres. Mais il m'a fallu faire tant de kilomètres sur des routes où on ne voyait à peu près rien, sinon une chapelle en tôle ondulée parfois, que je me suis dit que j'avais beaucoup de chance d'habiter le Perche, que je pouvais voir des forêts comme la forêt de Belém, ou alors celle que j'ai découverte après la vôtre, que je me demande si vraiment ça vaut le voyage d'aller au Canada où, en fait, vous êtes de mon avis, et dans le Perche, on peut tout avoir à portée d'yeux.
Alors écoutez, ce que vous me dites ne me surprend pas. Je vois simplement que vous avez été au Canada vraiment, puisque l'automne n'est pas toujours au rendez-vous aux dates où on se trouve au Canada. Il faut prendre un billet, parce qu'il y a beaucoup de trafic entre l'Europe et l'Amérique du Nord à cette époque-là. Mais quelquefois, on arrive trop tôt. Il n'y a pas encore de couleurs. Ouais. Quelquefois, on arrive trop tard, il n'y a plus de couleurs. Et il faut tomber pile et ce n'est pas assuré tous les ans. Ça, il faut le dire, parce que quelquefois, eh bien, il faut être beau joueur. La nature n'a pas de devoir vis-à-vis de vous. Elle a son cycle et quelquefois, on rate le bon moment. Bon.
Alors, oui, pour nos auditeurs qui n'auraient pas entendu notre première émission, j'aimerais que vous situiez votre arboretum.
Alors l'arboretum de Bois-Corde se situe à 4 km de Rémalard sur la route de Logny au Perche et je suis en pleine campagne dans des petits chemins.
L'arboretum se trouve à 4 km de Rémalard pour
oui,
nos
mais,
auditeurs.
Mais vraiment qui... perdu dans la nature.
Oui, mais le point de rencontre se trouve au syndicat d'initiative de Rémalard et à partir de là, tout est indiqué et facile pour arriver à cet arboretum.
Tout à fait. Alors, si vous voulez, on va revenir un petit peu vers ce que vous me dites qui me fait un peu sourire, parce que ce que vous dites est très vrai. Il ne faut pas dire aux gens que c'est une merveille, que l'automne indien est une merveille tous les ans, car moi, j'y suis allé très, très souvent. Je ne sais pas, j'y suis peut-être allé 20 fois, c'est-à-dire pendant 20 ans. Et il m'est arrivé presque une fois sur deux, disons, une fois sur deux, d'en revenir déçu. Parce que ça peut être un manque de couleurs, ça peut être des pluies épouvantables, beaucoup de vent. Voilà, il faut prendre patience et il faut surtout très bien connaître les endroits où il y a un bel été indien. Oui. Et ce n'est pas le cas toujours. Alors au Canada spécialement, vous pouvez faire des dizaines et des dizaines de kilomètres sans trouver d'endroits colorés, etc. En revanche, je me souviens très bien d'une année où j'ai traversé l'Ontario et notamment le parc des Algonquins. Il y a une route très très large qui traverse le parc des Algonquins. Et cette année-là, j'étais avec mon épouse. On s'est arrêté dans le seul hôtel du parc des Algonquins qui était disponible. Et au matin, on s'est levé très tôt pour aller faire des photos. Et là, c'était le miracle. Il y avait une espèce de buée, presque du brouillard, violet, qui réfractait sur des milliards de petites facettes de gouttes de bruine de pluie, cette lumière des feuilles, et c'était vraiment un moment enchanté. D'ailleurs, les gens étaient fous, il y avait des voitures qui se garaient brutalement, les gens sortaient brusquement avec des appareils photos, des caméras et tout. Je n'ai plus jamais revu ça après. Voilà. Là, c'était le maximum de ce qu'on pouvait voir. Et puis, à l'autre extrémité, il y a le minimum. Et on revient,
c'est vraiment
puis on
le
dit,
minimum.
On dit que ça ne valait pas le coup. Mais il faut être infidèle, voilà. Il faut être patient. Il faut savoir le traquer. Il faut lire les journaux. Parce qu'aux États-Unis, il y a des rubriques spéciales pour indiquer c'est le moment ou c'est pas le moment. Mmh. Et il y a même des statistiques qui sont faites pour donner des notes aux automnes.
Ah oui.
Alors, par exemple, moi, j'avais vu, je m'étais arrêté justement au centre de l'Ontario. J'avais vu un garde, enfin un scientifique qui était là pour garder le... recevoir les touristes, et j'avais dit que j'étais journaliste, il m'avait montré ses relevés de notes, et c'était très drôle parce qu'il y avait very dull, 1900, very dull, very very good, not interesting, c'était très drôle, et oui. Donc on se rendait compte que, et puis alors la date où arrive l'automne aussi,
ça
peut être très tôt, il peut y avoir un décalage de 15 jours, presque 3 semaines entre le moment où l'automne a commencé à une certaine année, et le moment où il a commencé l'année suivante. Il peut y avoir 3 semaines de différence.
Eh bien, moi, je dirais que dans le Perche, c'est beaucoup plus facile. Et moi, je suis allée plusieurs fois chez vous. Et à chaque fois, j'ai été heureuse parce qu'il y avait de belles couleurs. On faisait de très grandes promenades. Et vous nous expliquiez vraiment très, très bien tout ce qu'on pouvait voir.
Ah c'est oui, pourquoi mais parce que dans mon arboretum, ce sont les arbres américains. C'est
voilà,
pas les arbres
voilà.
Non, moi, je trouve que le Perche est très beau. Les chênes du Perche sont très beaux. Mais ça n'a pas les couleurs très, très vives et fascinante qu'il y a aux États-Unis et au Canada.
Oui, mais enfin, il y a de belles couleurs aussi.
Oui, c'est plus doux, c'est plus
oui,
roux.
Peut-être plus ouais. Doux, plus roux. Oh, il y a quand même des... Enfin,
moi, ça ne me fascine pas comme l'été américain, l'été indien américain,
quand il est
beau. Voilà. Quand il est beau. Il ne faut pas tromper les gens, il faut savoir.
Alors, je dirais aussi que c'est un petit peu déjà une histoire ancestrale, cette forêt.
Alors, l'histoire ancestrale, oui, parce que vous savez que le Perche a fourni énormément de pionniers. En fait, c'était des trappeurs qui abandonnaient dans la région notamment dans la région du Perche, qui a fourni de gros effectifs. Belém, Mortagne, Tourouvre, toute cette région-là.
Et ça, vers le XVIIe siècle.
Vers le XVIIe siècle, c'était des trappeurs qui cherchaient des fourrures.
Je disais traces des ancêtres, mais peut-être aussi des lectures qui ont favorisé ce goût pour les arbres.
Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup lu de romans de Jack London quand j'étais jeune. Et j'étais très porté vers ces paysages de neige, de tranquillité, de silence. Et c'est un peu ce qu'on va chercher à l'automne indien. Ce n'est pas seulement les couleurs et l'esthétique, mais c'est aussi un dépaysement total qui contraste avec les villes qui sont trépidantes.
Bien sûr.
Je me souviens d'une année où j'ai découvert l'état de New York après avoir franchi la frontière canadienne. Et pendant plusieurs jours, 2 ou 3 jours, on s'est enfoncé dans des forêts profondes, très colorées et tout ça. Et puis au dernier moment, ma femme m'a dit « Écoute, ça me ferait très plaisir d'aller à New York » et tout. Alors j'ai un peu résisté. Et puis finalement, j'ai cédé, on a été à New York. Et là, le choc est d'une brutalité incroyable parce que la ville de New York, qui est une ville magnifique. Hein,
c'est magnifique.
Un théâtre permanent.
Oui, moi j'ai adoré.
Mais si vous voulez, c'est très dur à supporter quand on sort de ces forêts magnifiques.
C'est autre chose.
Oui, ça c'est autre chose, oui, absolument.
Et alors justement, dans le Perche, vous y retrouvez aussi la sérénité.
J'aimerais le Perche transformé.
Dans votre arboretum.
Dans mon arboretum. Oui, bien sûr, absolument. Et souvent mon fils m'a dit, mais papa, tu sais, il y a quand même d'autres méthodes pour te fatiguer moins, parce qu'il y a un travail énorme.
Oui.
Et tu pourrais par exemple tracer des itinéraires à travers ton arboretum qui te permettraient de descendre avec une voiture 4x4, etc. Et je lui ai répondu, ça l'avait beaucoup marqué, je lui ai répondu, mais tu sais, c'est en refaisant le chemin toujours le même et quelquefois un peu inutilement qu'on s'attache vraiment et qu'on s'intègre à la terre qu'on cultive.
On peut presque évoquer pèlerinage.
C'est plus qu'un pèlerinage, c'est une création vivante. C'est l'établissement de souvenirs, de points d'appui.
Alors j'imagine que au départ, c'était sentimental comme
alors,
création.
Oui, exactement. C'est le coup de foudre que j'ai éprouvé, donc que je vous ai raconté dans notre première émission,
oui.
C'était effectivement sentimental. Et c'est pour ça que j'ai surtout cultivé des érables, érables rouges et érables à sucre, des chênes, des sorbiers.
Les semences. Comment vous pouviez les procurer?
C'est ce que tout le monde me demande.
Mais oui,
alors,
bien sûr.
Mais quelquefois, c'est des spécialistes qui font commerce de vendre des entreprises de vente par correspondance.
Mais est-ce que vous avez des semences qui viennent du Canada?
Bien sûr, mais de tous les coins du monde. Par exemple, j'ai un Anglais qui me fournit depuis 30 ans des semences de chêne et de sorbier qui viennent d'Asie, des vallées profondes de l'Himalaya, parce qu'il a des ramasseurs là-bas qui payent,
ah,
qui rétribuent.
Oui, 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 bien ça, sûr. C'est intéressant. Oui.
Non, mais il y a des quantités de... Puis plus on s'intéresse et plus on connaît de choses, plus on connaît de choses, plus on connaît de gens, et plus on connaît de gens, plus on a le motif d'échanger... D'échanger des graines et des arbres.
Oui, ça devient universel en quelque sorte.
Absolument. Ça. Vous ramassez des... Je me souviens très bien d'avoir visité un village qui avait été reconstitué près de Boston, un village de pionniers.
Oui.
Et sur le parking, il y avait des magnifiques érables à sucre. Le temps que mon fils prenne les billets pour entrer et pour visiter, c'était Old Stourbridge.
Oui.
Et j'ai ramassé quelques samars, c'est-à-dire les graines d'érable. Oui. Je les ai mis dans ma poche. Elles ont germé. J'ai maintenant un arbre qui fait 25 mètres de haut.
J'imagine que vous êtes encore...
Potentiellement, vous avez, vous avez
amoureux.
Dans votre poche des arbres qui font 35 mètres de haut.
Oui, c'est merveilleux.
Ouais, c'est merveilleux. Ouais.
Alors maintenant, est-ce que quand vous plantez, parce que vous plantez toujours, j'imagine.
Je plante encore, oui, encore que le terrain, la superficie me...
Alors maintenant, vous avez combien de superficie?
Ben, j'ai 14 hectares
quand
et
même.
Mes plus belles réussites, ce sera quand même les Nissa sylvatica, des chênes extraordinaires. Il y a un chêne notamment qui s'appelle Quercus marilandica, qui est une pure merveille avec des feuilles vernissées. On dirait qu'elles sont frottées à la cire tous les jours. C'est magnifique, vous verrez quand vous viendrez. Et puis, certains arbres durent jusqu'au... Le Nissa sylvatica, par exemple, qui est un arbre de marécage, tient jusqu'au 10-12 novembre. Et je me souviens d'avoir reçu une demande d'un groupe qui m'avait demandé de venir visiter. Je leur ai dit, écoutez, d'accord, quand vous pouvez-vous venir? Ils me disent, écoutez, pas avant le 10 novembre. Je dis, écoutez, c'est beaucoup trop tard, vous n'aurez plus d'arbres, sauf peut-être un qui fleurit, enfin qui colore très tard. C'était le Nissa sylvatica. Et ils sont arrivés le 12 novembre. Il n'y avait plus une couleur sur eux. Toutes les feuilles étaient tombées partout, sauf cet arbre-là. Et donc, ils ont passé 2 heures à tourner autour de l'arbre, qui était magnifique, qui en valait la peine, à tirer des centaines de photos. C'était très, très drôle. Et ils sont partis, ils étaient enchantés. Moi, j'étais très, très gêné.
Alors,
ils étaient enchantés.
J'en reviens à la façon dont vous travaillez maintenant. J'imagine que c'est peut-être plus scientifique.
Oui, alors c'est plus scientifique, c'est d'abord plus technique.
Oui.
Car maintenant, je me suis équipé de tracteurs et trucs. Et puis, oui, c'est plus scientifique en ce sens que c'est plus universel. Il y a des arbres que je prends et que je plante, même s'ils ne colorent pas. Alors qu'avant, mon critère, c'était est-ce qu'ils colorent ou est-ce qu'ils ne colorent pas à l'automne.
Ah, oui.
C'était vraiment l'objectif. Et maintenant, c'est les arbres rares exceptionnels. Voilà.
Eh bien, un grand merci Alain Vernol. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver avec Alain Vernol dans un mois. Un grand merci à vous et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez reprendre cette émission sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci Alain Vernol.
Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi.